Bonsoir François Guérif.
Bonsoir.
Et merci de nous rejoindre. Donc nous en étions, en fait, on n'a pas avancé, on est toujours pratiquement en 86, hein, puisqu'on parlait des premiers auteurs publiés. Ouais. Alors on va quand même aller jusqu'en 88, où là sort Rivage Thriller.
Oui.
Pourquoi adjoindre une grande collection, si entre guillemets?
Ben, c'est tout simplement pour une raison économique, c'est-à-dire que c'est à cause un peu d'Elroy, dans le sens où j'avais publié les trois premiers Elroy et je savais qu'il allait sortir le Dahlia Noir. Et d'un seul coup, j'ai dit à Chérivage, voilà, on va se trouver face à un problème qu'avait déjà affronté des gens comme Robert Soudin dans la série Noire. C'est que, d'un seul coup, si des auteurs que l'on a révélés publient des gros livres, ça devient presque impossible de les publier directement en poche. Je m'explique d'abord parce que les droits sont plus chers, parce que comme le livre est beaucoup plus épais, la traduction est nettement plus chère, ce qui fait que pour simplement couvrir ses dépenses, il faut en vendre 50 000 ou sinon on perd de l'argent. C'est une façon de transformer un succès en échec, donc c'est ridicule. Et puis je disais aussi, c'est vrai qu'il y a des auteurs qui ne voulaient pas que certains livres paraissent directement en poche, et donc je sentais qu'à ce moment-là, on allait se priver d'un certain nombre d'écrivains, et donc je crée Rivage Thriller parce que c'est la seule solution.
D'accord, et donc justement, on va parler de, entre guillemets, l'auteur phare quand même de Rivage, oui, qui est James Elroy. Donc comment vous avez été amené à le publier, donc d'abord en petit format?
Ben écoutez, Elroy, c'est tout simplement et tout bêtement un agent qui m'a envoyé Blood on the Moon, donc Lune sanglante. J'ai lu le livre et j'ai trouvé le livre absolument extraordinaire et j'ai dit je l'achète. Et à ce moment-là, l'agent me dit « Ah mais c'est une trilogie et il faut acheter les trois ou rien du tout ». Et ça a été, c'est une histoire morale en fait, parce que Edouard André, qui dirigeait Rivage, m'a dit « Oh là là, trois livres qui étaient relativement chers, avec pour une collection de poche demande un certain nombre de feuillets quand même, parce que comme vous avez pu le voir, c'est pas des petits livres ». C'est au moins 350 à 400 feuillets sur un auteur inconnu, vous risquez gros, c'est-à-dire que si ça marche pas du tout, eh bien vous mettez la collection en péril, quoi. Et j'ai dit non, il faut quand même y aller. Et en fait, j'ai découvert après coup que l'agent voulait vendre les trois d'un coup, car Elroy avait été proposé à tous les éditeurs français avant moi. Alors, moi, ça m'amuse beaucoup aujourd'hui quand on me dit « Vous avez découvert Elroy ». Je dirais que j'ai découvert Elroy parce que j'ai pris le risque de le publier, mais la série Noire l'avait eu, Adam Michel l'avait eu, tout le monde l'avait eu. Et j'ai même appris que, par exemple, la fiche de lecture de la série Noire disait que c'était un livre qui pourrait jamais marcher en France parce que c'était trop typiquement américain. Et moi, ce qui m'avait fasciné dans le livre, c'est que non seulement c'est l'écriture, bon, je trouvais que c'était une écriture que je n'avais jamais rencontrée auparavant, et justement, je trouvais qu'il y avait une façon de parler de la violence et de parler de l'Amérique comme on n'en avait jamais parlé auparavant dans le roman noir. Donc et voilà, alors une fois que j'ai publié ces trois... Alors en plus, quand je dis que c'est une histoire morale, c'est vrai que quand le premier livre est sorti, je le rappelle souvent, pendant un mois, il ne s'est pas passé grand-chose et on a frôlé l'échec. En tous les cas, l'état d'esprit était morose. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir le papier de Jean-Patrick Manchène dans Libération et qui a ouvert les vannes, si je puis dire. C'est le jour de la parution de l'article de Manchène que le livre a explosé et ça s'est pas arrêté depuis.
Non, effectivement. Et donc maintenant, vous vous souvenez de combien de James Elroy sont publiés maintenant?
Oh, écoutez, grosso modo, il doit y avoir, attendez, le Quator, le 6, 9, 10, 11, il doit y avoir une quinzaine.
Ouais, j'aimais bien que vous racontiez cette histoire parce que c'est vrai qu'on entend souvent « Ah, Rivage Noir, de toute façon, ils ont la chance d'avoir Elroy, donc ça va, quoi. » Mais il a fallu un jour décider de le publier et de l'accepter alors que plein d'autres l'avaient refusé. Alors, justement, vous parliez d'un agent. Depuis 20 ans, vous êtes un découvreur de talents, qu'ils soient étrangers ou français. Est-ce que vous avez un réseau d'informateurs? Comment ça se passe?
Non, il y a plusieurs façons. Bon, il y a d'abord, comme je vous disais au départ, il y a un certain nombre d'auteurs qui m'intéressaient. Toute une partie de la collection, ça vient quand même, encore une fois, des inédits des grands auteurs. Donc, le côté rechercher les inédits de Goodies, les inédits de Thompson, les inédits de Charles Williams, de Burnett et de Latimer, etc. Il y avait les auteurs que j'avais commencé à publier dans les autres collections. Il y a aussi, alors c'est peut-être pour ça que Rivage Noir a quand même un air de famille, Il y a des auteurs amenés par d'autres auteurs. Je rappelle que c'est Jan Willem van de Wettering qui m'a envoyé Charles Wilford, que c'est Elroy qui m'a envoyé Edie Bunker, que c'est Barry Gifford qui m'a envoyé Jim Nisbett, enfin, etc. Donc, ça, il y a bouche à oreille. Il y a aussi parfois des amis qui me disent « T'as pas lu ça, c'est intéressant. » Et puis, bien sûr, il y a pour les Français des manuscrits qui arrivent aussi par la poste. Et puis, il y a bien sûr des agents qui maintenant, qui connaissent la collection, envoient beaucoup de livres.
Alors, on va peut-être tordre le cou à non dit tout fait. C'est que souvent, on dit oui, de toute façon, pour être accepté un jour, il faut déjà être connu ou être pistonné. Chez Rivage, on lit tous les manuscrits.
Oui, alors simplement, il faut dire aux auteurs que parfois ça prend un certain temps. Il y a même eu une année où j'avais eu le malheur de dire comme ça à la radio, comme chez vous maintenant, on m'avait dit ça, on m'avait dit oui, mais pour être publié, il faut être pistonné. Je lui ai dit pas du tout. Et justement, je viens de publier le livre d'une jeune femme, je l'ai reçu par la poste, et le livre c'était Hélène Couturier, Fils de femme. Et dans l'année qui a suivi, j'ai dû recevoir 3 manuscrits français par jour. Et
Oui,
donc
d'accord.
j'avais fait une lettre en disant, écoutez, on va le lire, mais vous
Il faut quand
imaginez
même un
bien
peu de temps.
que ça prend du temps, donc je ne pourrais pas vous répondre avant un an. Et alors il y a des gens qui disaient, qui répondaient parfois avec des lettres très en colère, disant vous vous foutez du monde. Il y en a d'autres qui disaient ça vaut la peine d'attendre. Oui, bien sûr, on les lit, mais la seule chose souvent, et je comprends très bien, les auteurs sont inquiets, hein, mais parfois ils ne s'en rendent pas compte du temps qu'il faut, que je reçois énormément de manuscrits et qu'il faut quand même un certain temps.
De toute façon, il faut aussi leur dire que c'est donc forcément un signe de critère de qualité, puisque au moins c'est le temps de le lire et pas simplement de le parcourir ou de lire les 3 premières pages, quoi.
Exactement.
On a parlé de l'auteur phare, on pourrait parler de Donald Westlake, de Elmore Leonard, vous avez parlé aussi de Thompson, de Barry Gifford. Moi, j'aimerais qu'on parle de 2 auteurs, alors que j'ai subjectivement choisi, en mon nom personnel et à moi-même.
Oui.
C'est 2 auteurs qui sont peut-être un peu moins connus du grand public. Le premier, c'est Daniel Woodhull,
Ah,
qui est un auteur extraordinaire, qui moi, me fait penser à Steinbeck.
oui.
Et j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu. Parce que c'est un auteur qui mérite vraiment d'avoir le succès de vos grands auteurs.
Ben écoutez, je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est un peu un crève-cœur pour moi. J'en ai quelques-uns comme ça. Alors justement, Woodrell au début, le premier livre de Woodrell est paru avec une préface d'Elroy. Et c'est Elroy qui l'avait envoyé. Et moi, je trouve que c'est un auteur génial, qui est de meilleur en meilleur, si je puis dire. Et vous verrez, hein, je ne fais pas de la publicité, mais en 2007, début 2007, je vais publier son dernier livre. Et là, pour une fois, bien que ce ne soit pas un gros livre, je vais le publier en grand. Parce que malheureusement, c'est vrai que la critique s'intéresse pas beaucoup aux livres publiés directement en poche. On a énormément de mal à avoir de la presse. Et vous allez voir le dernier livre, Au cœur de l'hiver, c'est un livre, mais je pèse mes mots, qui est un livre sublime. C'est son plus beau livre. C'est un livre extrêmement dur, dont le personnage principal est une adolescente, dont le père a disparu un jour. C'est toujours dans les Appalaches, dans des endroits très reculés, parce que la civilisation n'est pas entrée. Et cette jeune fille, un jour, part à la recherche de son père et arrive dans le village où on l'a vu pour la dernière fois, et elle tombe sur des gens extraordinairement fermés. Et à la fin du livre, vous avez une scène qui est absolument à la fois d'une dureté extraordinaire et qui est complètement bouleversante, et le livre est magnifique. Je trouve que La mort du petit cœur était un chef-d'œuvre, que la fille
J'allais en
rouge.
parler parce que c'est un livre qui m'a beaucoup beaucoup impressionné et touché.
Oui, et bien ça me fait plaisir que vous citiez le nom de Daniel Woodrell, parce que je voudrais vraiment, vraiment, vraiment tout faire pour que enfin cet auteur soit remarqué. Aux États-Unis, après, ça a été difficile, mais il commence à être tout à fait remarqué, parce que le tout dernier, là, que je vais publier, la critique américaine a cité les noms que vous citez, genre Steinbeck, Cormac
Moi, c'est
McCarthy, tout ça.
Caldwell. C'est le
Et,
petit arpent.
ouais.
La mort du petit cœur, ça me fait penser au petit arpent du bon Dieu.
Oui,
C'est un
et...
livre aussi fort qui l'humanité des personnages et l'inhumanité du reste, c'est absolument sublime. En plus, avec une superbe écriture et une traduction qui a su transcender, je pense, l'écriture, enfin, en ce qui,
enfin, ça qui, semble... qui rend, je ne dirais pas de la transcendance, parce que l'écriture américaine est magnifique, mais en tous les cas, qui essaye de rendre
voilà, oui.
cette transcendance. Yeah. Et je trouve aussi que c'est le seul véritable héritier de Jim Thompson.
Ouais, c'est vrai
parce que ces personnages, très souvent, comme dans La fille cheveux rouges tomates ou La mort du petit cœur, ceux qui racontent l'histoire sont presque des gens simples d'esprit. Il y a un côté Faulkner. Et justement, ce qui est très fort, c'est qu'il raconte cette histoire et le lecteur la reconstruit derrière des phrases apparemment toutes simples. Et d'un seul coup, on découvre la situation comme ça au fur et à mesure. Moi, je trouve que c'est un magnifique auteur. Je suis tout à fait d'accord.
Voilà. Alors, un autre auteur, peut-être un petit peu atypique par rapport au roman noir, c'est une expression qu'on entend assez souvent en ce moment, c'est Jean-Marie Villemot.
Oui.
Alors, j'aimerais un peu que vous nous parliez de son univers, parce que son personnage de curé qui aime tant la confiture, il est un peu, c'est un petit peu, je dirais, à contre-courant de ce qu'on entend beaucoup dans les festivals de polar, ce qu'on entend valoriser. Et je trouve que lui aussi, il mérite beaucoup d'être... il faudrait qu'il soit vraiment encore plus découvert.
Ben, je suis tout à fait d'accord aussi, ça fait plaisir que vous citiez ce nom-là. Ben, écoutez, moi, je ne connaissais pas Jean-Marie Villemot, il m'a envoyé son premier livre, Abel Brigand, qui m'a complètement sidéré par ce côté qui était à la fois, avec son personnage de curé détective, qui était un espèce de pont entre la littérature populaire, policière, enfin genre Chesterton, du début du XXe siècle, et en même temps avec des problèmes très contemporains, et un plaisir de raconter, que je trouve formidable, tout le début de Abel Brigand, le presbytère, le chat avec la main du cadavre dans la gueule du chat, etc., et ce monstre aux yeux verts est formidable. Et là, je vais en publier un aussi à la rentrée qui s'appelle, au début 2007, qui s'appelle Les Petits Hommes d'Abidjan.
Et qui reprend le personnage.
D'Abel Brigand. Cette fois-ci, ça se passe à Abidjan, donc en Côte d'Ivoire. C'est, à mon avis, un livre absolument formidable sur les événements récents qui sont passés en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que Jean-Marie Villemot ne vit pas en France. Il voyage beaucoup. Il est nommé. Très souvent à l'étranger parce qu'il aime ça, et il était en Côte d'Ivoire, et donc il a fait voyager son personnage pour parler d'un monde qu'il connaissait bien, et je trouve la même chose, que c'est une histoire extrêmement habile sur le côté mystérieux, policier, intrigue, mais que l'essentiel, en fait, comme toujours, pour un roman vraiment réussi, c'est que son personnage de curé détective est d'une humanité profonde, et d'un œil à la fois lucide, compatissant,
tendre.
Et tendre sur les choses et les gens qui l'entourent, et que le personnage est extrêmement riche. Et en tous les cas, sur les petits hommes d'Abidjan, je trouve que le message, même politique, entre guillemets, est très clair.
Mais même dans les précédents, parce que s'il est riche, il est pas lisse, parce qu'il se gêne pas pour égratigner les notables ou les gens qui croient avoir le pouvoir.
Absolument.
Alors justement, on part à Abidjan, mais il me semble que depuis quelques années, donc avant il y avait beaucoup d'Américains, des Français, et j'ai l'impression qu'il y a une évolution vers des Européens, et puis aussi l'Amérique latine, avec Paco Ignacio Taibo II.
Oui, ben l'Amérique latine depuis longtemps, parce que Paco, ça remonte à un certain temps, avec Paco Ignacio, et puis avec Daniel Chavalier, et puis avec Raoul Arremi maintenant.
Oui.
Oui, tout à fait. Moi, je...
Est-ce que c'est une évolution du polar ? Moi, la question suivante, en fait, c'était un petit peu, qu'est-ce que vous avez vu évoluer dans le polar ? Qu'est-ce qui se passe depuis 20 ans, en fait ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Qu'est-ce qui...
Bah, je dirais que peut-être... Moi, ma démarche à moi était la suivante, c'est qu'à un moment donné, j'entendais, par exemple, Patrick Renac, quand arrivé à la CNR, disait « il faut publier des romans russes, il faut publier des romans... » Et moi, je disais « il faut, si les romans sont bons ». Donc, moi, je dis espagnol, alors ça allait, mais je sais que pour les Sud-Américains, au début, il y a 20 ans, les textes qu'on me proposait n'étaient pas bons, jusqu'au jour où j'ai reçu par des voix, ça serait trop long à raconter ici, le premier livre de Paco Ignacio Taibo II, Sans bras de la Sambra, et je me suis dit, voilà, formidable. Je crois que les choses ont évolué dans le sens où Paco Ignacio Taibo lui-même le raconte. Paco a créé la YEP, l'Association internationale des écrivains de romans policiers, parce qu'il pense que le roman noir est le sous la forme la plus noble du roman. Et il voulait pousser absolument ses collègues mexicains, uruguayens, cubains, etc., à œuvrer dans ce genre qu'on disait mineur. Donc je crois que c'est vrai qu'il y a une redécouverte de la noblesse du genre chez un certain nombre d'écrivains et chez un certain nombre de critiques européens. Ce qui fait que aujourd'hui, bon, je sais pas, des gens comme Pinkez, Camilleri, etc., sont reconnus à leur juste valeur, Montalbán en Espagne, et donc les auteurs n'hésitent plus à se lancer dans le polar et comme dans une entreprise littéraire. Avant, il y avait un peu, genre, je fais un polar parce qu'il faut bien faire bouillir la marmite, ou il y avait ce côté un petit peu méprisant, je vais faire un polar vite fait, ou qu'est-ce que c'est qu'un polar? Moi, ce qui m'énerve encore aujourd'hui, c'est quand on me dit qu'est-ce qui fait les ingrédients d'un bon polar. Moi, je dis tout le temps, l'ingrédient d'un bon polar, c'est une belle écriture.
Ouais, c'est un beau livre.
C'est ça, avant tout.
On l'entend encore régulièrement sur les antennes. Ah, mais et c'est quand que vous vous lancez dans la vraie littérature?
Oui, oui, absolument. Moi, je participe à des débats où parfois, d'un coup, on me dit, alors, François Guérif, qu'est-ce qu'il faut? Alors, est-ce qu'il faut un serial killer? Est-ce qu'il faut une femme fatale? Enfin, etc. Donc, parfois, les bras vous en tombent. Mais on s'en moque. L'important, c'est que... Bon, en plus, c'est vrai que c'est un genre qui raconte le monde, ça c'est sûr, et que les gens se rendent compte que non seulement ils vivent pas dans le monde qu'on leur dit exister, mais qu'il y a un monde derrière celui dans lequel ils sont censés exister, que c'est le polar qui le décrit. Et puis, deuxièmement, il y a autre chose, en fait, plus simplement, c'est Claude Chabrol qui dit que pour faire du polar, lui, en tant que metteur en scène, il faut de l'humilité. Et que on se met pas en avant, qu'il faut déjà savoir construire une histoire. Et il disait, Chabrol, moi, j'ai choisi ce genre très souvent parce qu'il faut de l'humilité, et c'est très, très bien pour les metteurs en scène. Et que deuxièmement, j'aime pas emmerder mon public, et c'est quand même très rare qu'avec un polar, on ennuie vraiment son public.
Je l'avais lu l'autre jour, il disait le polar dans le cinéma, ah oui, c'est tout ce qu'il n'y a pas d'emmerdant dans le cinéma.
Voilà.
Vous trouverez un polar dans tout ce qu'il n'y a pas d'emmerdant. Ouais. Alors, si on voit un peu l'évolution du polar, il me semble qu'il y a quand même un auteur qui a vraiment innové, c'est David Peace.
Oui.
Là, ça a été quand même un choc de découvrir, un choc bienfaisant d'ailleurs, mais un choc de découvrir cet auteur.
Absolument.
Donc, un Anglais.
C'est un Anglais. Cela dit, David Peace, il est. Il s'en dégage en ce moment, ce qui est bien. Il est très influencé par Elroy, au départ. Il le dit lui-même, d'ailleurs. C'est vrai que le véritable révolutionnaire, pour moi, ça a été Elroy, quand même. Il a inventé quelque chose, il a créé quelque chose qui a influencé énormément d'auteurs. Avant Elroy, il y a quand même assez peu de romans où, d'un seul coup, on fait ressurgir une histoire qui s'est passée il y a 30 ans pour la relier à l'histoire présente, où on bifurque entre 25 destins et tout. Et puis cette écriture est extraordinairement sèche, précise et tout. Mais alors David Peace a été influencé par Elroy, mais il a assez de puissance pour s'affirmer lui-même, indépendamment d'Elroy. Et c'est vrai que pour moi, ça, c'est... Alors évidemment, quand je dis ça, on dit « vous faites votre propre publicité », mais je suis désolé, je trouve que c'est l'écrivain, pour moi, la plus grande découverte de ces dernières années.
Oui, c'est vraiment un écrivain à découvrir et à suivre, parce qu'on rentre dans un univers qu'on a vraiment envie de continuer à...
Oui, et puis en plus, c'est quelqu'un qui va nous étonner parce qu'il est jeune, il a 40 ans, et qu'il a une puissance de travail absolument formidable. Depuis le GB84, il a publié un livre sur le football, dans le même style.
Non, je ne veux pas parler de foot en ce moment.
Oui, oui, je sais, mais il a publié sur... et je l'ai quand même acheté, parce que bien que ce soit une histoire de football en Angleterre, donc je ne suis pas sûr que les lecteurs français... connaissent très bien les équipes de Manchester et compagnie, mais le livre absolument extraordinaire sur le portrait d'un entraîneur, les dessous du sport et tout, et il vient d'écrire le premier volet d'une trilogie qui se passe dans le Japon de l'immédiat après-guerre, c'est-à-dire dans les réserves, enfin les camps américains d'occupation au Japon. Il y a une série de meurtres et je vous garantis que c'est absolument extraordinaire. Donc je pense que David Peace, ça n'est que le début en plus.
De belles lectures en perspective. On va bientôt malheureusement être obligé de se quitter parce qu'on pourrait parler encore pendant des heures des auteurs de Rivage. Simplement, vous fêtez quand même glorieusement les 20 ans parce que cette année, si je ne m'abuse, ça a commencé par deux prix à Cognac avec Jake Lamar et Pascal Dessin. Nous venons d'apprendre que French Tabloïd, joli hommage à Elroy, on en reparle encore, de Jean-Hugo Pell vient d'avoir le prix de la critique.
Le prix Michelin de la critique, oui, absolument.
Voilà, donc les 20 ans se passent quand même bien. Est-ce que il y a une surprise pour les 20 ans? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu, je ne sais pas, à la rentrée ou...
Écoutez, les surprises, c'est les livres.
Oui.
Bon, c'est...
Oui, c'est ce dont je voulais parler, quoi. Un nouvel auteur.
Oui, alors je dirais que, bon, là, rentrée, il y a un livre formidable de Dominique Menotti qui s'appelle Lorraine Connexion, et c'est assez drôle parce que ça met en scène l'entreprise EADS, qui est aussi d'actualité. Le livre n'aurait pas pu mieux tomber, et qui était la fameuse rachat de Thomson par Daou quand un certain Premier ministre avait dit « ça ne vaut même pas un franc ». Donc c'est un livre absolument formidable. Il y aura nos auteurs habituels. Mais alors la surprise, je dirais, c'est un livre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je tiens absolument aussi à tout le temps à faire ce travail d'exhumation de livres, comme disait Chabrol, qui sont passés à travers les mailles du filet. Et grâce à un traducteur, Jean-Paul Gracias, j'ai lu un roman néo-zélandais, un monsieur qui s'appelle Ronald Hugh Morrison, qui est mort à l'âge de 42 ou 43 ans, qui avait écrit trois livres, et cet homme disait, et c'est assez émouvant aujourd'hui de le savoir, il disait « J'espère ne pas être un de ces pauvres diables qui ne sera découvert qu'après sa mort ».
Voilà, ben ce sera malheureusement le mot de la fin, on peut le dire. Merci beaucoup François Guérif pour toutes ces jolies histoires. Et puis à bientôt pour de belles découvertes de lecture. Merci,
merci,
au revoir.
À vous. Au revoir.
Et nous, on se retrouve à la rentrée au mois d'octobre. C'était la dernière émission de la saison. Et on vous souhaite pour cette soirée une bonne fête de la musique à tous. Et à très bientôt.
Et de bonnes lectures cet été.